BFM Bourse, on refait la séance.
Avec, ils viennent de nous rejoindre, Julien Kistrebert et Laura M. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Et Stéphanie Mauger. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Guillaume.
Gérante privée, la financière d'UZES. Donc une séance pour rien, tout le monde attend maintenant les publications. On va rentrer dans le dur la semaine prochaine avec ASML. Ah, ce sera mercredi, le 15 juillet. Alors, il y aura les banques américaines, ça va démarrer le 14 juillet, hein, JP Morgan, et donc ASML ici en Europe le 15, mercredi. Quelles sont vos attentes pour ASML? Puis après, je vous poserai la question sur les entreprises françaises. ASML, Stéphanie.
ASML, oui, on attend certainement des bonnes choses, même si on sait bien qu'aujourd'hui, sur ces thématiques des semi-conducteurs, les attentes sont là, et quand on publie ce qu'on a attendu, c'est pas forcément ça qui fait monter. Hein. On a eu la publication de Samsung au début de semaine, qui était incroyable, mais qui finalement a baissé dans les deux séances consécutives. Donc ASML, il ne faut pas oublier, c'est déjà plus 70% depuis le début de l'année, hein, tout le secteur, les ASMI plus 76, les BESI plus 90, quand on est aux États-Unis, c'est des plus 100, plus 110, Samsung, Intel, etc. Donc c'est un secteur qui a déjà très très bien performé, qui a contribué de manière très significative à la hausse notamment de l'Eurostock 500, parce que c'est un des gros poids. Donc on attend plutôt des bonnes choses, mais avec pas forcément une réaction dans les cours, dans la foulée, parce que c'est déjà performance est déjà belle.
La corde est-elle un peu usée à ASML, qui est en retard quand même sur les techs américaines, même si c'est la plus grosse européenne? Qu'est-ce que vous attendez comme réaction à la publication?
Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, hein, puisque le groupe va certainement relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Hein. Pour l'instant, ils avaient été assez prudents sur l'objectif de croissance organique, donc ils devraient se rapprocher des 20% en termes d'objectifs. Ce qui sera attendu aussi dans le message, c'est pour 2027, hein, combien de machines ils pensent pouvoir livrer sur la technologie EUV, puisqu'on vise entre 90 et 100 machines. 100 machines, ce serait l'idéal. Donc ce serait plutôt des bonnes choses. Et après, effectivement, sur l'aspect valo, on est revenu sur les plus hauts, hein, qu'on a connus sur ce dossier, hein, 45 fois les résultats. Ce qui rend les gens optimistes, c'est de se dire, historiquement, le groupe avait plutôt une prime par rapport à ses pairs américains, assez significative, et maintenant, il y a une décote. Alors, la question est de savoir, c'est est-ce que la valorisation des sociétés américaines est justifiée? On trouve que c'est un peu excessif de ce côté-là. Donc, effectivement, 45 fois les résultats, c'est une très belle société, encore une fois, il n'y a pas de débat. Ça semble bien, bien dans les cours.
Alors, Gilles Santacreu est avec nous. Gilles, ASML, vous la sentez comment graphiquement pour sa publication qui approche? Ce sera jeudi prochain.
Graphiquement, on est sur une très belle tendance, hein, puisqu'on a cassé une résistance à 1308 euros pour aller s'afficher sur un record au-delà des 1700. Là, on a consolidé depuis quelques jours, et notamment cette semaine, mais enfin, on reste à 10% quand même de ces records. Donc avant, effectivement, cette publication, on reste dans une configuration technique qui reste haussière. La consolidation est tout à fait mesurée, donc les perspectives sont encore plutôt bonnes actuellement.
À Paris, Julien, quelle sera la publication pour vous à ne pas rater, celle qui pourrait le plus transformer le potentiel d'une valeur?
On attend surtout les sociétés, je dirais, qui ont été le plus attaquées. Hein. Je pense à certaines petites valeurs comme Vision Group, hein, qui ne s'est pas totalement relevé des notes, qui disaient que finalement le contrat Walmart, quand il allait s'arrêter, les chiffres allaient être un petit peu difficiles en termes de croissance. Donc je pense qu'ils vont être assez attendus sur ce type de publication. Hein. On rappelle que le titre a quasiment divisé par deux, hein, par rapport au plus haut. Certainement de CRSI aussi qui va être attendu, hein, avec tout.
Ah oui, de CRSI.
Tous les bruits qu'il y a eu sur ce dossier, les hedge funds qui l'ont attaqué. Donc je dirais que c'est.
Et publiquement, vous avez une idée?
La date en tête. Mais globalement, c'est les sociétés qui ont été très attaquées comme ça, sur lesquelles on sera vigilant. Après, d'une manière générale, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes sur les publications, hein, puisque les sociétés, en tout cas, on a une bonne visibilité, en tout cas, sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc pas de publication.
Une vigilance sur les sociétés qui ont été attaquées, Vision donc et 2CRSI à l'occasion de leur publication. Vous, Stéphanie, quelle société française vous surveillerez le plus sur les publications?
Alors la semaine prochaine, il y a ASML, après il y a Publicis qui est un beau dossier aussi, à notre sens, qui n'est pas très cher. La semaine prochaine, directement, il y a une petite société qui nous consuit beaucoup, qui est Atem, qui a pas mal fait parler d'elle, parce que d'abord, le parcours boursier est déjà très beau. Et puis, il y a vraiment toute cette notion de souveraineté.
Ils font quoi, Atem?
Pardon?
Ils font quoi, Atem?
Atem, ils font des logiciels pour la compression vidéo, notamment pour tout ce qui est streaming. Quand vous êtes sur Canal+, l'app Canal+, vous utilisez leur solution, etc. Ah, il y a Antoine qui réclame.
Antoine, oui, pardon.
SkyNix.
Ah,
ça y est.
Bon, on l'a. C'est priorité au direct. On prendra sur Atem juste après. Depuis le début, on attend SkyNix.
Ça fait un moment qu'on l'attend. 170 dollars. 170 dollars, donc on est sur une hausse de 15-16%.
D'accord, voilà, pour les premiers pas de Skynix, donc sur le marché c'est américain, fait. Plus grosse intro d'une entreprise étrangère à Wall Street, il lève 26,5 milliards de dollars, c'est plus qu'Alibaba en 2014, voilà. Et il fallait le dire, effectivement, et c'est la priorité au direct. C'est dans BFM Bourse que vous vivez les marchés de l'intérieur. Athènes, exactement. Donc, A-T-E-M-E.
A-T-E-M-E, exactement. Après, on peut aussi se tourner vers le secteur de l'automobile, qui a été quand même très pénalisé. Je pense à peut-être un OP Mobility, qui est une société qui est très, très bien gérée, qui a beaucoup baissé, et qui, je pense, devrait plutôt publier des très bons résultats, notamment en termes de génération de cash. Toute cette thématique automobile, on l'aborde un peu par un autre angle maintenant, l'angle de la défense, hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va avoir besoin de toutes ces sociétés, les Renault, les Michelin, les Valeo, pour produire un certain nombre de choses. Donc voilà, ça peut donner des biais un peu différenciants sur des dossiers qui ont été un peu attaqués.
Ce soir, ArcelorMittal termine en tête du CAC. Il y a un relèvement d'opinion sur ArcelorMittal, JP Morgan qui passe de sous-pondéré à neutre. Alors je sais pas, ça vous aimez bien ce genre de valeur ArcelorMittal, Julien, d'habitude? Non, vous aimez pas trop en parler. Je vous associe aussi des registres, je ne sais pas pourquoi.
Il y a très longtemps, ouais.
Plus forte hausse du CAC.
très longtemps, ouais. On était, enfin, dans une société où je travaillais, on est grosse position sur Arcelor et sur Corus. Ah oui,
et puis je vois là-dedans. Vous êtes à vendre sur ArcelorMittal. Vous êtes plutôt à vendre, en fait.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Je vous associe, mais pas dans le bon sens. Okay.
Aujourd'hui, oui, plutôt à la vente. Bah, tout simplement, effectivement, on a l'activité américaine sur l'acier qui est bien orientée avec les systèmes de tarifs. Donc ça, c'est le point positif. L'Europe, c'est un peu plus compliqué, hein, inflation sur les coûts. La partie minière, si les volumes sont bons, on a des sujets sur les coûts de transport et de fret qui vont peser un peu. Mais globalement, je dirais que les résultats vont être solides. Voilà, la valorisation est quand même relativement haute pour une cyclique aujourd'hui. Donc, nous, on
donc
est plutôt
à vendre, alors que Stéphanie, elle est prête à acheter vos titres ArcelorMittal. Elle est à l'achat.
Alors, je suis positive. Moi, je trouve que c'est une société qui a une rigueur de gestion incroyable. On voit d'ailleurs la très bonne allocation de leur capital qu'ils ont faite avec Vallourec, hein, qui est, ils ont revendu 10%. Ils étaient rentrés pour mémoire en mai 2024 à 14 euros. Ils ont revendu, ils avaient repris 28% de Vallourec. Ils en ont vendu 10% à 26 euros, plus les dividendes qu'ils ont encaissés. Donc, voilà, je trouve qu'Arcelor, effectivement, est une valeur cyclique, mais qui, aujourd'hui, pourrait bénéficier quand même aussi d'un relâchement sur la tension sur effectivement le pétrole. On peut redémarrer sur un certain nombre de projets de réindustrialisation, de défense, de souveraineté, de fin de guerre. Après, on peut aussi peut-être se tourner vers d'autres sociétés comme des Vicat, des Heidelberg qui ont beaucoup baissé aussi, qui sont peut-être un peu moins chères.
Alors, un avis positif. Donc, ce soir sur ArcelorMittal, vous, Stéphanie, le titre termine plus forte hausse du CAC à plus 6. En revanche, beaucoup plus négatif, prudent, Julien. L'arbitre des élégances, c'est Gilles Santacreux. Gilles, graphiquement, qui a raison? Julien, plutôt prudent ou au contraire, Stéphanie, positive sur Arcelor?
Oh, qui a raison, je sais pas. J'irai pas jusqu'à arbitrer ça. La seule chose que je voulais signaler, c'est que sur Arcelor, on a une belle dynamique, qu'on est en train de tester des plus hauts que l'on a eu en 2010 et qui nous ramènerait donc sur des zones de cotation que nous n'avons plus depuis 2008. Donc, dans cette configuration, d'un point de vue court terme, ça reste haussier. On a effectivement un petit axe de faiblesse là, ces dernières semaines, mais qui ne remet pas en cause la dynamique de fond. Donc, je serais plutôt positif, hein, sur Arcelor pour un signal de continuité donc de cette dynamique.
Vinci, de son côté, remporte un contrat. Non, on en parlera dans un instant de Vinci. Je voudrais juste vous signaler, dans Valeurs Ajoutées, tout à l'heure, c'était à 16h10, un de nos experts nous parlait d'un titre dans lequel il croit à fond. C'est un acteur, vous savez, des paiements automatiques. Quand vous passez sur l'autoroute, plus besoin de sortir votre carte, tout ça est automatique et tout. C'est un groupe espagnol qui, manifestement, est en train de bien se positionner sur le marché américain des autoroutes pour automatiser aussi le paiement sur les autoroutes américaines. Alors là, vous imaginez l'ampleur du marché. Le groupe Sacyr. Les arguments de nos experts dans Valeurs Ajoutées, la séquence est disponible en replay sur notre application BFM Business. Et donc, sans transition, Vinci qui remporte un contrat, alors non pas sur les autoroutes là, mais pour installer et exploiter 25 sites de recharge électrique pour les poids lourds dans le nord de l'Allemagne. C'est pas mal, c'est une thématique montante aussi, l'électrification des véhicules, des poids lourds. Vinci, vous l'aimez ou pas, ce genre de nouvelles qui vous fait plaisir?
Oui, on aime bien Vinci, surtout qu'elle a plutôt retracé, hein, avec les hausses des prix de l'essence et donc les craintes sur les volumes sur les autoroutes. Alors c'est vrai que c'est un recul de 1,8% sur les autoroutes françaises de janvier à mai, mais bon, ça reste quand même tout à fait gérable. Globalement, on a eu un début d'année un petit peu difficile aussi sur la construction pour des questions de climat. Le S2 devrait être un peu plus favorable. On espère évidemment que tous les plans de relance qui ont été annoncés vont enfin commencer à se mettre en place sur les infrastructures, et effectivement les histoires de transition énergétique en font partie. Vinci est bien positionné sur cette thématique, donc on aime bien les acteurs, je dirais, d'une manière général, que ce soit un Vinci ou un SPI qui sont positionnés. Alors, c'est une histoire un peu différente, mais Vinci, la valorisation, elle est, à notre sens, très attractive pour un groupe qui a quand même grosse activité d'infrastructure.
Ouais. EasyJet ce soir gagne 14%. EasyJet donne son accord de principe pour un rachat par Apollo à hauteur de 5,7 milliards de livres. Apollo a surenchéri face à Castle Lake et finalement donc Apollo est parti pour l'emporter. 14% de hausse EasyJet. Et encore un groupe qui va se faire avaler. Il y en a beaucoup en ce moment des OPA dans l'univers des mid-cap, ici en France aussi. Il y a Pierre et Vacances, il y a Edenred dont on entend parler, il y a XL qui va se faire racheter par Thales. À qui le tour ensuite, Stéphanie, là, cet été ou au deuxième semestre ou après, qui se fera racheter et qui quittera la cote?
Alors, c'est une question d'horizon de temps, effectivement. Une dont on parle quand même souvent, c'est Abivax, dans les biotech, qui a fait déjà l'objet de plusieurs fois de rumeurs, qui est bien financée maintenant, donc qu'elle est en bonne position pour éventuellement négocier. On peut avoir aussi, peut-être dans la défense, moi je pense à un Exosens, dont fonds HLD a quand même, s'est beaucoup désengagé. Et c'est vrai que c'est un bel acteur. On voit bien les Safran et Thales qui vont faire leur shopping. Donc ça peut aussi être une idée. Voilà, après peut-être à plus long terme, moi j'imagine quand même des offres, ou en tout cas, ce n'est pas des offres, c'est peut-être des sorties de cote de la part du management, peut-être sur un Boiron. Très peu liquide, sur du Line Data, dont le capital a été beaucoup racheté par leur fondateur. Ça peut être des idées.
Des idées. Et à la fin, il n'en restera qu'une, mid-cap en bourse. Non, mais est-ce qu'il ne restera
que...
Pour
le moment, on n'a pas beaucoup d'introduction en bourse.
Alors, attendez, c'est confirmé pour mardi, le slip français. C'est confirmé, effectivement. BFMBourse.com, d'ailleurs, pour l'article complet sur l'ampleur de cette introduction. Bon, c'est une petite, mais elle est symbolique. Et puis, un 14 juillet, c'est plutôt bien joué en termes de communication. Ça nous occupera, nous-mêmes, ça nous fera des choses à raconter la semaine prochaine, évidemment, dans nos émissions. Mais est-ce qu'à la fin, il n'en restera qu'un, au sens où il n'en restera que des mid-cap pas très attractives, celles dont personne n'aura voulu racheter le capital? Est-ce qu'en bourse, il ne restera que les moins prometteuses, quelque part, à la fin? Julien?
Parce qu'on a quand même, peut-être pas sur le marché français, effectivement, mais d'une manière générale, je pense que les investisseurs professionnels, on ne regarde pas que le marché français, normalement.
Donc, il se passe
des choses ailleurs, effectivement. À Paris, oui, c'est un peu plus calme. Mais bon, il y a toujours des sociétés qui ressortent du lot au bout d'un moment et qui étaient sous les radars pour des questions de capitalisation boursière ou qui n'est pas délivrées tout de suite et puis qui pareil, par la suite, en tout cas, ressortent.
Voilà. Qui d'autre se fera racheter? Quelles sont les prochaines cibles d'après vous?
Moi, je pensais parler de Zegona Communication, donc c'est un peu particulier. C'est coté à Londres.
Zegona Communication. Ouais,
des anciens Virgin qui ont acheté des actifs télécom en Espagne, notamment Vodafone Espagne. Leur spécialité, c'est de restructurer et de vendre. Donc ils ont fait déjà un gros travail là-dessus sur la partie fibre. Ils sont en train de travailler sur la base de coûts de Vodafone Espagne aussi. Ils n'ont pas vocation à garder l'actif. Donc c'est vraiment des cost killers et donc c'est un actif qui sera tôt ou tard revendu. C'est un fonds ou pourquoi pas. En tout cas, ce serait le rêve des opérateurs télécoms là-bas, Telefonica et Orange, se partager l'actif.
Oui, vous la connaissiez, Zegona?
Oui, le parcours est époustouflant, c'est une très belle performance.
Et là, elle est bien revenue, justement.
Oui, je suis d'accord, comme Orange, un certain nombre de valeurs.
C'est effectivement.
Oui, d'accord. Indépendamment de toutes ces actus, une petite pépite pour la suite comme ça, valeur dont vous vous dites, ça vaut le coup d'en parler quand même. Il y a Nexans que vous aimez bien parler.
Oui, je me dis que Nexans, sur ces niveaux-là, il y a quand même une forte décote par rapport à Prysmian. Effectivement, il y a ce problème du projet Grèce-Chypre, avec les tensions avec la Turquie. Mais avoir une décote de près de 40-50% par rapport à Prysmian, ça paraît peut-être un petit peu excessif. Mm-hmm. La thématique de la transmission d'électricité reste là et assez forte. Et on le voit que même s'ils ont ce sujet Grèce-Chypre, les capacités, il y a une telle demande qu'ils peuvent les utiliser pour d'autres projets. Donc sur ces niveaux-là, ça nous semble assez intéressant. Et pareil, c'est un titre qui est revenu un petit peu. Et on
Stéphanie, une petite pépite comme ça?
Une petite pépite, alors on peut peut-être se jouer dans les biotech. Alors c'est un peu plus spéculatif, mais un Nanobiotix par exemple a déjà fait un très beau parcours, mais qui là vraiment avance dans son cycle de recherche d'études cliniques. Donc ça peut être une idée, mais Nanobiotix, Medincell, dont on attend une actualité importante plus à la rentrée.
Merci. Sur les essais cliniques.
Oui, tout à fait.
D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphanie Mauger, la financière d'UZES, gérant privé. Gilles Santacreux était avec nous, bien sûr, depuis boursicoté.com. Et un grand merci à Julien Kistrebert aussi de nous avoir rejoint, gérant pour Taylor AM.